grap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu, Média et Culture au sens large. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Nos indispensables du jour, une découverte musique et des découvertes cinéma. Notre infomédia va se pencher sur la résistance comme vous ne l'avez peut-être encore jamais vu. D'abord, c'est autour d'un documentaire filmé sous une forme inédite. Ensuite, avec un angle peu connu, quand la résistance était encore morcelée en 3 unités, parfois rivales. Nous serons avec sa réalisatrice Caroline Benaroche. Et puis nos invités, l'animatrice Julia Vignali, on l'annonce dans Télématin sur France 2, mais elle démarre ce soir sur M6, la 4e saison du meilleur pâtissier et les professionnels, avec un nouveau venu dans le jury, le chef étoilé Jean-François Piège, lui aussi sera à ce micro. Enfin, Nicolas Pagnol, c'est le petit-fils et surtout l'héritier du grand Marcel Pagnol, héritier au sens noble, puisqu'il fait vivre et revivre son œuvre. Notamment, il a retrouvé un film perdu du grand Pagnol, qu'il publie sous forme de bande dessinée, La Prière aux étoiles. Pourquoi il est perdu? Parce que Pagnol, en personne, l'avait détruit pour qu'il échappe à l'Allemagne nazie. Lui en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Et bonjour.
Antoine Janton, bonjour.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
La mort d'une des conseillères du CSA, Michel Léridon. Deux nouvelles séries sur TF1 ce soir, série américaine, ce sera notre focus programme. Et puis la vente au rabais de deux anciens géants du numérique.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors c'était le même programme télé sur les chaînes principales, mais pas le même classement, vous allez le voir. C'est France 2 qui est arrivé en tête avec la suite de sa série Meurtre au paradis, un épisode inédit. C'est en hausse, hein. 3 880 000 téléspectateurs en moyenne pour les deux premiers épisodes, 17,2% de part d'audience. Le premier épisode est à près de 5 millions, un très joli score pour la 2. Ensuite, c'est TF1 qui n'arrive donc pas leader avec la finale de sa saison 11 de Clem. Deux épisodes inédits qui ont attiré 3 300 000 téléspectateurs, 15,8% de part d'audience. Clem qui retrouve donc quelques couleurs pour le final, mais rien de spectaculaire non plus. Et puis Marié au premier regard, qui avait dépassé TF1 la semaine dernière et 3e cette semaine. C'était la 9e soirée qui se maintient quand même plutôt bien, même s'il y a une légère baisse. 3 millions de téléspectateurs et 14,1% de part d'audience. À noter sur W9 une très belle performance pour le film d'action Red. 1 650 000 téléspectateurs, 7,3%, ce qui fait de W9 un large leader de la TNT.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une la mort soudaine de l'une des membres du CSA, Michel Léridon.
Elle s'est éteinte hier à l'âge de 62 ans. Michel Léridon, journaliste, avait fait la quasi-totalité de sa carrière à l'agence France Presse, l'AFP, dont elle avait été directrice de l'information. Elle avait été la première femme nommée à ce poste. Elle l'a occupé pendant 5 ans, de 2014 à 2019, avant de rejoindre le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une institution qu'elle a marquée de son empreinte, écrit le CSA dans un communiqué ce matin. Nous avons joint son président, il y a quelques minutes, Roch-Olivier Maistre, ému, lui rend hommage.
Une très grande émotion. Très grande émotion. Le sentiment d'avoir perdu une amie chère. C'est une personne qui était unanimement appréciée, respectée. Appréciée à la fois par sa très grande bienveillance, son attention aux autres, son respect des personnes et des points de vue, son côté positif, sa capacité à défendre ses idées avec à la fois douceur et conviction. Et puis c'est quelqu'un qui était très respecté par sa rigueur professionnelle, son parcours exemplaire et son éthique de grande journaliste. Sa hauteur de vue, elle avait une parole qui faisait autorité sur des sujets très sensibles dont elle s'occupait au sein du collège, le pluralisme politique, la déontologie des programmes, les nouvelles compétences qui sont les nôtres en matière de régulation des plateformes de contenu, les réseaux sociaux. C'était une très, très belle personne, c'était une amie pour nous tous et on est vraiment très très triste de cette disparition brutale et on pense beaucoup à sa famille, à ses fils, à tous les siens.
Roch-Olivier Maistre, le président du CSA.
Autre disparition dans le monde des médias, celle du fondateur de Jeune Afrique.
Béchir Ben Yahmed, il est mort à 93 ans des suites du Covid-19. Jeune Afrique, c'est un journal qu'il avait créé en Tunisie en 1960, devenu le magazine de référence sur l'Afrique francophone, parfois d'ailleurs surnommé le 55e État d'Afrique. Un magazine autour duquel il avait créé un groupe de presse qui compte parmi ses titres aujourd'hui La Revue, un bimestriel d'actualités internationales.
Comme le pressentait Jean-Marc Jurami hier à notre antenne, Éric Zemmour Zemmour va rester, lui, à l'antenne de CNews.
C'est la direction du groupe Canal+ qui l'a annoncé hier sans faire plus de commentaires. Le polémiste reste donc, malgré des accusations d'agression sexuelle, des baisers forcés, un SMS équivoque, entre autres, des accusations portées par 5 femmes dont les témoignages ont été recueillis par Mediapart. Le Figaro, autre employeur d'Éric Zemmour, n'a pas souhaité réagir.
La campagne des élections régionales dans les médias maintenant, LCI va organiser 3 débats.
3 débats pour 3 régions. Les Hauts-de-France d'abord, dans un peu plus d'un mois, le 9 juin, puis l'Île-de-France, le 14 juin, enfin Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont on parle beaucoup ces dernières heures, le 16 juin, 4 jours seulement avant le premier tour de ces élections régionales. 3 débats qui seront animés par David Pujadas.
Et puis le focus programme du jour, Antoine, ce sont 2 nouvelles séries sur TF1.
2 séries américaines diffusées chaque mardi soir à partir d'aujourd'hui. For Life en seconde partie de soirée, on va y venir. Et avant elle, en prime, Lincoln à la poursuite du Bone Collector, une fiction policière inspirée du film Bone Collector, que vous avez peut-être vu, sorti en 2000 avec Denzel Washington et Angelina Jolie. La série raconte l'histoire de Lincoln Rhyme, un criminologue piégé par un tueur en série, par le tueur en série qu'il traque, le Bone Collector. Un piège qui le rend tétraplégique, mais pas question de renoncer à cette traque. Il continue depuis chez lui grâce à l'aide de sa coéquipière Amelia Sachs. Elle porte des caméras sur elle, une série qui a séduit TF1 et en premier lieu sa directrice artistique des acquisitions et des coproductions internationales, Sophie Levaux.
C'est une série carrée, addictive, qui se regarde comme un patch-turner, un bon polar. Et on trouve qu'elle a parfaitement sa place en prime time, au même titre que de grandes séries qui ont mis à l'honneur des grands duos comme dans Mentaliste, L'Arme fatale. C'est efficace, juste et des bons personnages, bien écrits, aussi guidés par leur cœur, leurs sentiments et leurs émotions.
Et juste après Lincoln, TF1 diffusera ce soir For Life, donc fiction inspirée d'une histoire vraie, celle d'un homme accusé à tort, condamné à perpétuité et qui devient avocat. Et Baroque en parlera dans son zapping du lendemain dans une petite heure, juste après 10h. 2 séries américaines donc, alors que les fictions les plus regardées sur TF1 sont françaises. HPI jeudi dernier, près de 10 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, 8 millions après replay pour une autre série, Le Remplaçant. Cela dit, pas question pour TF1 de délaisser la fiction étrangère, la chaîne veut continuer de proposer tous les genres.
On est une chaîne généraliste, on s'adresse à la famille, au plus grand nombre. Il n'y a pas de compétition, on aura d'autres rendez-vous, d'autres petits coups de cœur à partager. On n'a pas à rougir de tout ce qui a été défendu en fiction étrangère, aussi bien européenne qu'américaine. Il y a une appétence du public pour des genres et des propositions très différentes. Le bassin d'audience qui nous est fidèle, aujourd'hui, nous montre qu'on fait bien de poursuivre et de ne pas abandonner ce territoire.
Voilà, Sophie Levaux, directrice artistique des acquisitions et des coproductions internationales de TF1. Rendez-vous ce soir, Lincoln à 21h05, For Life à 22h50. Et si vous ne pouvez pas, il y a toujours le replay.
D'un fauteuil rouge à un terrain vert, le présentateur de Complément d'enquête sur France 2 pourrait bientôt rejoindre l'Olympique de Marseille.
Jacques Cardo serait sur le point de devenir le directeur de la communication de l'OM, information du journal L'Équipe. Marseille, une ville que le journaliste connaît bien, il y a travaillé. Il y a été correspondant pour France Télévisions.
Et puis on va parler de 2 marques numériques parmi les plus puissantes des années 90, eh bien Yahoo et AOL viennent d'être vendues.
Vendues, bradées même, disent certains, à un fonds d'investissement, Apollo Global Management, montant de l'opération 5 milliards de dollars, 4 milliards d'euros, 5 milliards, c'est beaucoup.
Ça va.
Certes, non. Mais c'est bien moins que le prix auquel les avait achetés le désormais ex-propriétaire Verizon, 9 milliards de dollars il y a 5 ans, soit une baisse de 45%.
Et puis un nouveau projet de série pour Netflix.
Une série animée, inspirée d'un des jeux vidéo les plus populaire au monde, League of Legends, Arcane, c'est le titre de cette série. Elle sera en partie conçue par un studio français, Fortiche Productions, et elle sera diffusée à partir de l'automne prochain, sans plus de précision. Oui, c'est un nom qu'on retient et on leur dit bravo,
ouais. Hein,
parce que travailler sur ce genre de programme avec Netflix, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est Fortiche. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec un focus sur l'histoire secrète de la résistance et le titre d'un docu-fiction qui retrace la naissance puis l'unification de la résistance à travers ce récit, un procédé original. Nous en parlons avec Caroline Benaroche, et la réalisatrice de ce documentaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Quand on parle de la résistance, on a le sentiment d'évoquer un mouvement de tout temps uni et solidaire. Mais en réalité, la résistance a longtemps été morcelée et traversée par les rivalités. Trois années de division entre 40 et 43, ça fait même 4 si on compte les intermédiaires, avant la création d'une structure unifiée, le Conseil National de la Résistance. Et c'est cette histoire de doute et de méfiance, mais aussi d'entente et de sacrifice que raconte un documentaire à la narration étonnante et aux images soignées, film diffusé ce soir sur France 2 en partenariat avec Europe 1 et on en est ravis. Bonjour Caroline Benaroche.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire, l'histoire secrète de la Résistance, un docu-fiction. D'abord, est-ce que ce mot vous convient ?
Oui, oui. Alors, je sais que parfois, il peut avoir mauvaise presse parce qu'on a peur que des images soient un peu cheap.
Ouais.
Mais en l'occurrence, on a justement, comme vous le disiez, soigné la réalisation. Donc oui, ça me convient.
Alors, j'utilise ce mot parce que même si vous utilisez quelques images d'archives, j'arrive à le dire, la plupart des scènes sont des reconstitutions jouées par des acteurs, travail documentaire très précis.
Oui, et joué par des acteurs, beaucoup de scènes de reconstitution en effet, 80% quasiment du film, pour une seule et simple raison, il n'existe pas d'image d'archives de la Résistance. Donc pour raconter cette histoire, il a bien fallu qu'on trouve comment le faire sans ces images d'archives, et c'est pour ça du coup qu'on s'est essayé à la fiction.
Mais évidemment, toutes ces reconstitutions sont basées sur des faits réels, sinon aucun intérêt. Alors, c'est pas nouveau pour un documentaire historique de reconstituer des scènes, ce qu'il est en revanche, c'est la manière dont vous faites parler les 5 résistants que vous avez choisi de suivre. Et c'est en ça que je dis que la manière de filmer est inédite. 5 personnages historiques. Je vais les décidément, j'arrête pas de dire hystérique pour historique. Jean Moulin, Gilbert Renault, Georges Beaufils, Henri Freinet et Bertie Albrecht. Ils parlent tous face caméra, comme dans les émissions de télé-réalité. Exemple avec Gilbert Renault, alias le colonel Rémy, qui se présente ainsi dès le début du film.
Le réflexe qui me fait partir pour l'Angleterre me vient de mon éducation. Cela fait 20 ans que je me nourris des écrits de Charles Maurras et de son parti, Action Française. Comme lui, il m'est impossible de reconnaître la défaite de la France. Je vais donc tout naturellement là où il me semble que l'on continue à se battre.
Qui écrit ce que dit Gilbert Renault là ?
Alors, chaque phrase qui est prononcée par les acteurs sont tirées de leur mémoire. Donc, ce sont des verbatims qu'on a parfois un tout petit peu réécrites pour que ce soit plus facilement, pour que les comédiens puissent les dire plus facilement. Mais à chaque fois, ce sont véritablement leurs mots tirés de leur mémoire.
Donc, c'est lui qui a vraiment dit ça.
Vraiment.
Donc, j'ai découvert, pendant l'occasion, qu'ils étaient inspirés de Charles Maurras, qu'on n'imaginait
exactement
pas de la part d'un résistant. Et c'est en ce sens-là aussi également que ce documentaire est très intéressant. Faire parler des figures historiques à la manière de candidats de télé-réalité, pardon de le dire comme ça, et plus largement accorder autant de place à la reconstitution. Pourquoi avoir choisi cette manière de faire ?
Alors, je vous disais déjà parce qu'il n'y a pas d'image d'archives.
Ouais.
Donc,
Le facecam, le face caméra.
Le face cam, l'idée c'était aussi de garder un peu les codes du documentaire, les codes du reportage, donc d'avoir des interviews. Maintenant, on a décidé de les faire face caméra parce que c'était en quelque sorte on voulait le présenter un peu comme un journal intime, briser, si vous voulez, le quatrième mur qui peut exister entre le téléspectateur et le témoin. Voilà, qu'il parle directement au téléspectateur. Et puis, ça nous semblait un peu étrange de donner l'impression qu'on avait envoyé un journaliste interviewer des comédiens aussi.
Alors, puisqu'on en a parlé de la forme, ce qui frappe également dans votre film, c'est la manière de filmer justement, caméra à l'épaule, au plus près des comédiens, donc des résistants. Là encore, c'était pour changer les codes classiques du documentaire ?
Alors oui, on peut se dire que, si vous voulez, le cinéma souvent s'est inspiré du reportage pour donner plus de véracité, on va dire.
Juste un mot pour vous donner raison. Vous remarquez qu'en ce moment, il n'y a plus une série qui ne soit tournée avec la caméra à l'épaule. Tout bouge tout le temps, toute l'image bouge tout le temps, soit à l'épaule, soit au steadicam, quasiment toutes les séries.
Bah, l'idée, justement, c'était d'avoir cette caméra portée, encore une fois, de garder les codes aussi du reportage, et puis les frontières, finalement, entre la fiction donc, et le documentaire et le reportage sont de plus en plus poreuses. Donc, il y a des réalisateurs comme Paul Greengrass qui s'inspire de la manière de filmer du reportage.
Dites
pour leur film.
Est.
C'est le réalisateur, par exemple, d'un film qui s'appelle...
Bloody Sunday,
Bloody
c'est ça
Sunday,
c'est lui
exactement, ouais. C'est lui, Bloody Sunday. Il voulait donner l'idée d'une immersion, en fait. Et il a tout filmé caméra à l'épaule comme ça. Nous, on s'est un peu inspiré de cela aussi. Et puis, à côté de ça, on a travaillé la lumière, on a travaillé les cadrages à la manière du cinéma. Donc, on s'est vraiment inspiré aussi des codes du cinéma.
Pardon de dire les choses comme ça, c'est aussi pour toucher le jeune public ?
Exactement. Moi, je suis maman de 2 adolescentes et je me suis dit que leur raconter l'histoire en ayant un rythme comme ça un peu soutenu et à la manière des séries qu'elles peuvent regarder sur les plateformes, ça pouvait sans doute faire venir des spectateurs plus jeunes.
Ça a fonctionné sur elles ? Vous leur avez montré déjà ?
Oui, et ça a fonctionné.
Et alors, la réaction ?
Eh bien, ce qu'elles ont aimé, en fait, c'est de se sentir proche de ces personnages, de se rendre compte qu'en fait, ils sont assez jeunes, à peine plus âgés qu'elles, qu'ils se posent les mêmes questions d'engagement qu'elles peuvent, elles, se poser aujourd'hui. Et donc, oui, ça a plutôt fonctionné.
Encore une question de forme avant d'en venir au fond. Est-ce que c'est également pour attirer un public plus jeune que vous avez demandé à un chanteur, à un écrivain, Gaël Faye, pour ne pas le citer, de faire la voix off de ce documentaire ?
En effet, Gaël Faye avait remporté le Goncourt des lycéens. Avec Petit Pays, donc il s'adresse à un public aussi très jeune. C'est quelqu'un qui est dans l'engagement, une figure de l'engagement, et donc c'était aussi en effet pour attirer un public plus jeune.
Alors on va en venir au fond, à l'histoire de la résistance, ou plutôt l'histoire des mouvements qui ont composé la résistance, car ce qui marque dès le début de votre doc, c'est justement la diversité de ces mouvements. L'un des tout premiers, il s'appelle le Mouvement de Libération Nationale, le MLN. Il a été créé par Henri Freinet avec Bertie Albrecht en 1940. Extrait.
Considéré dans son ensemble, nous estimons que le mouvement de De Gaulle est une erreur. Notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme.
Ça manque de force.
Comment ?
Ça manque de force.
Ajoutons. Donc notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme, et ajoutons, et nous ne recevons de Londres aucun ordre, ni aucun subside, et n'en recevrons jamais.
Très bien.
Allez, je prends la suite.
Nous sommes convaincus qu'on défend mieux son pays en y restant qu'en le fuyant.
Là aussi, on l'entend bien, ça va contre les clichés pour qui ne connaîtrait pas bien l'histoire de la résistance. Elle n'a pas toujours, la résistance, servi le général de Gaulle.
Non, en effet, Henri Freinet était militaire et comme beaucoup de militaires, il était pétainiste. Il était persuadé que Pétain, étant le héros de Verdun, allait préparer une revanche et qu'il préparait même secrètement une revanche. Et donc, il
pensait que Pétain jouait un double jeu,
oui.
C'est-à-dire qu'il faisait le beau, si j'ose dire, devant les Allemands.
Exactement.
Et qu'en sous-main, il préparait la revanche.
Que sa révolution nationale serait le cadre de sa revanche. Il s'est évidemment trompé. Et c'est Bertie Albrecht, qu'on entend aussi, qui est son bras droit et sa compagne, et qui va le faire évoluer, puisque elle, au contraire, n'a pas supporté du tout de voir Pétain serrer la main d'Hitler. Elle connaît la folie nazie parce qu'elle a fréquenté des réfugiés allemands qui lui ont raconté ce qui se passait là-bas. Et c'est grâce à elle qu'il va évoluer.
Autre personnage historique que vous suivez, c'est Georges Beaufils, ouvrier électricien, militant communiste, un homme qui était entré en résistance après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, c'était en juin 1941, comme des milliers d'autres communistes qui se lancent alors dans des actes violents, les sabotages, les assassinats. La répression est alors féroce, arrestations et exécutions.
Ces exécutions ne suffisent pas à calmer la fureur allemande. Pucheux met en place le service de la police anticommuniste. L'unité est chargée de les traquer, multipliant les filatures, perquisitions et arrestations. Le gouvernement, lui, tente de mobiliser la population contre ces terroristes. La ville de Nantes offre une prime de 500 000 francs à tout informateur sérieux. Le maréchal Pétain soutient cette entreprise en appelant lui-même à la délation.
50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie, aider la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés.
Les courriers sont anonymes pour la plupart. Leur volume est tel qu'il faut créer des bureaux pour les traiter.
C'est le fameux cours des 40 otages à Nantes. Pucheux, c'était le ministre de l'Intérieur de Vichy. Dans quelle proportion la délation a-t-elle affaibli la résistance ?
C'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les services de Vichy vont devoir créer des officines pour traiter ce courrier parce qu'il est extrêmement abondant. Mais donner un chiffre précis, personne n'en est véritablement capable, ni même Olivier Vivierca, avec qui est notre conseiller historique, avec qui on a travaillé.
Pour qu'on ait un ordre de grandeur, c'était vraiment à la marge ou c'était la moitié de la résistance était gangrénée par la délation et touchée ?
Honnêtement, c'est compliqué à dire.
À ce point-là, on ne peut pas le savoir.
Ouais.
Et l'infiltration ? Parce qu'il y avait aussi des Allemands qui essayaient de s'infiltrer, des agents pro-allemands.
Oui, ce sont de nombreux Français. En l'occurrence, il y a un Français qui s'appelle Henri de Villers qui avait infiltré le réseau de Henri Freinet et Bertie Albrecht. Donc quelques Français, pour de l'argent finalement, infiltraient les mouvements de résistance et faisaient remonter toutes les informations à Vichy. Et dans le cas du mouvement d'Henri Freinet et de Bertie Albrecht, ça a été dramatique.
Autre moment clé que vous montrez dans l'histoire de la résistance, c'est la création en 1943 du STO, le service du travail obligatoire. Vous restez avec nous, Caroline Benaroche. On continue de parler de cette histoire secrète de la résistance. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Caroline Benaroche, l'histoire secrète de la résistance, c'est elle qui signe ce documentaire qui passe ce soir sur France 2 à 21h en partenariat avec Europe 1. Documentaire raconté par Gaël Faye et présenté par Julien Bugier, notre confrère du 18-20 d'ici. Il y a un autre moment clé dans l'histoire de la résistance que vous montrez, c'est la création, je l'ai dit, en février 43 du STO, le service du travail obligatoire. Des dizaines de milliers de jeunes Français ont été envoyés de force en Allemagne pour y travailler dans les usines du Reich. C'est Pierre Laval qui est alors le chef du gouvernement de Vichy.
À nouveau, le chef du gouvernement cède à une exigence de l'occupant. En février 1943, Pierre Laval parade devant les caméras pour saluer 200 000 jeunes Français qui partent travailler dans les usines allemandes. Mais 50 000 jeunes vont refuser ce service du travail obligatoire, le STO, et bouleverser la résistance. Ils quittent leur famille pour se réfugier dans les montagnes des Alpes et du Jura. Dans l'Ain, un homme veut leur venir en aide. Henri Petit a 42 ans et l'expérience de la clandestinité. Deux ans plus tôt, sous le pseudonyme de Roman, ce publicitaire, officier diplômé de Saint-Cyr, a créé un réseau de résistance baptisé l'Espoir.
Quel rôle les maquis ont-ils joué dans l'histoire de la résistance, Caroline Benaroche ?
Un rôle finalement primordial au moment du débarquement. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'au début, en fait, les maquis sont ignorés. Ignorés par De Gaulle, ignorés par les alliés aussi, qui n'ont pas vraiment confiance dans ces jeunes gens qui ont débarqué comme ça, sans rien. Et Henri Petit, donc, qui a rejoint le maquis de l'Ain, veut forcer quelque part la considération des alliés de De Gaulle. Et il va monter un coup d'éclat, un coup de pub génial, en organisant un défilé militaire dans les rues d'Oyonnax, une petite ville dont les Allemands sont absents. Et comme ils n'ont rien, ils vont fabriquer des armes factices en bois pour défiler. Et il va faire filmer ce défilé. Et ce sont ces images qui vont remonter jusqu'à Churchill et qui vont finalement décider les Alliés et De Gaulle à armer ces maquis en vue du débarquement.
Image que vous montrez. Oui. Dans quelle mesure les gens savaient que c'était des armes factices ? Est-ce que les gens dans la rue à Oyonnax le savaient ? Est-ce que l'occupant nazi le savait ? Est-ce que Churchill le savait ?
Alors, Churchill sûrement pas. Ouais. Les gens du village ont dû s'en rendre compte. Et les Allemands, hélas, ont fait payer assez lourdement aux maquis de l'Ain ce défilé.
Donc c'est de la communication et de la provocation à l'intention même, y compris des alliés.
Oui, surtout pour en fait leur donner confiance, leur montrer que ces jeunes savent marcher au pas et qu'il faut les armer.
Et ça montre aussi cette difficulté qu'ont eu les résistants à s'armer, difficulté que montre votre film. Autre difficulté rencontrée par les résistants, il n'y a que des difficultés, mais c'est le principe de la résistance, communiquer, faire passer les infos. Les messages sont parfois écrits et cachés dans des vêtements ou alors dans des livres. D'autres sont transmis par la radio, un moyen rapide mais assez facilement détectable et pour cause, et qui demandait à la radio quelques connaissances et une certaine habileté. On le voit dans les premières minutes du documentaire avec un jeune résistant, Bernard Anquetil. Racontez son histoire.
Bernard Anquetil a 24 ans. En fait, c'est Gilbert Renault qui est chargé par le bureau du colonel Passier à Londres de faire remonter des informations de France vers la Grande-Bretagne. Et pour ce faire, il réussit à faire rentrer en France via l'Espagne un poste émetteur. Un poste émetteur, à l'époque, c'est un truc énorme de 30 kilos qui est difficilement maniable en plus. Donc, il réussit quand même ce tour de force déjà à en faire rentrer en France. Et ensuite de ça, il trouve Bernard Anquetil qui a 24 ans pour jouer l'opérateur radio. C'est extrêmement dangereux parce qu'à chaque contact avec la centrale anglaise, on risque de se faire repérer par les Allemands qui traquent les ondes. Et les Britanniques, à l'époque, disent que l'espérance de vie d'un opérateur radio ne dépasse pas 6 mois. Et c'est hélas ce qui va se produire pour Bernard Anquetil qui, à 24 ans, sera arrêté et fusillé par les Allemands au Mont-Valérien.
Je l'ai noté ici, arrêté le 31 juillet 41, fusillé en octobre de la même année. On revient au fil conducteur de votre documentaire, l'union des mouvements de résistance. Ce que veut De Gaulle depuis le départ. Et c'est la mission qu'il a confiée justement à Jean Moulin, l'unification. Mission remplie en mai 43 à Paris. On va entendre la reconstitution d'une réunion aussi dangereuse que cruciale.
Le 27 mai 1943, il réunit tous les grands chefs de la résistance à Paris, au 48 rue du Four, à 600 mètres à peine du Lutetia, le QG de l'Abwehr. Si la police allemande venait à les repérer, toute la résistance serait décapitée. Le risque est fou, l'enjeu immense.
Ça fait bon voyage.
Il veut faire voter la création d'un Conseil national de la résistance, l'ébauche d'un parlement clandestin qui doit rassembler toutes les tendances politiques pour conforter la légitimité du général. Pour y parvenir, il a convié les ennemis d'hier pour en faire les alliés de demain.
il les a conviés, mais comment a-t-il réussi à les unifier? Il ne suffisait pas de les réunir, il fallait qu'ils soient d'accord. Comment Jean Moulin a-t-il réussi?
C'est 3 ans de travail, 3 ans de discussion. Les mouvements de résistance avaient aussi beaucoup besoin d'argent. Et finalement, il a réussi aussi à les séduire en leur donnant de l'argent et en leur demandant en échange de se rallier à De Gaulle. Donc ça a été 3 ans comme ça de parlementation. Ce qui a été très compliqué aussi pendant cette réunion, c'est qu'en fait, il demandait au mouvement de résistance d'accepter la présence de personnalités politiques de la 3e République, ceux qui avaient déserté au début de la guerre. Et ça, pour beaucoup de résistants, c'était insupportable. Après, ils ont tous compris à un moment que pour que De Gaulle puisse s'imposer aussi vis-à-vis des alliés, il fallait qu'ils s'unissent tous pour permettre à De Gaulle en fait, de parler au nom de tous les Français.
Et là, c'est encore plus tragique, c'est même pas 6 mois, fin juin 1943. Un mois plus tard, Jean Moulin est arrêté.
Oui, il est arrêté à Caluire. Il sera torturé par Barbie et il mourra dans le train qui le conduit en Allemagne début juillet.
Votre documentaire, Caroline Benaroche, a été salué par la presse ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu les papiers dans le Figaro, dans La Croix, dans Le Parisien. C'est pas rien comme budget. Vous avez tourné quel budget? Parce que c'est quand même assez impressionnant quand on voit les images.
Alors non, c'est un petit budget. C'est pas un budget de fiction, c'est un budget de magazine. Mais avec Brainworks, on a constitué donc la société de production, une super équipe légère mais très soudée. Le chef opérateur et le directeur photo, Sacha et Nicolas Bosino, sont 2 frères. Donc c'est vraiment une petite équipe familiale. Et c'est beaucoup de bidouilles.
Ah oui? Oui. Vous allez continuer la bidouille, prochain projet?
On réfléchit en effet à un prochain film qui conserverait un petit peu ce mode de narration qui nous a beaucoup plu.
La même forme, le thème, c'est pas encore arrêté, non. Mais vous savez que vous allez continuer dans cette forme.
On espère, on croise les doigts.
Ce qui risque de faire votre signature.
J'aimerais bien.
Et le début d'une collection. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Benaroche.
Merci.
L'histoire secrète de la résistance, c'est ce soir sur France 2 à 21h, en partenariat avec Europe 1. Documentaire raconté, la voix off, c'est Gaël Faye. Documentaire présenté par Julien Bugier, qu'on salue. Dans un instant, on parlait d'une émission qui va vous mettre l'eau à la bouche. Si vous êtes au café, le meilleur pâtissier, mais version professionnelle. Nous serons avec le chef doublement étoilé Jean-François Piège et la présentatrice de l'émission Julia Vignali. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Julia Vignali.
Bonjour Philippe Vondel.
Figure d'M6 plus pour longtemps, vous êtes annoncé depuis quelques jours sur France 2 à la rentrée prochaine pour co-présenter Télématin avec Thomas Soto. Mais là, pour l'instant, vous êtes sur M6. Votre actu, c'est le meilleur pâtissier, les professionnels. Ce soir à 21h, c'est comme le meilleur pâtissier, mais encore plus spectaculaire parce que ce sont des pros qui s'affrontent, quoique les amateurs ont déjà un niveau pro. Candidat départagé par un jury de stars de la cuisine, Cyril Lignac, cuisinier préféré des Français, Pierre Hermé qui a été élu meilleur pâtissier du monde. Et pour cette 4e saison, il y a un nouveau venu dans le jury. Et quel nouveau venu? Bonjour Jean-François Piège.
Bonjour Philippe.
Chef doublement étoilé, vous avez en outre cette particularité, vous êtes le créateur de toutes les pâtisseries de vos restaurants, y compris dans votre resto 2 étoiles, le grand restaurant, normalement on délègue. Pourquoi pas vous?
Bon, c'est pas délégué, mais c'est parce que quand on vient chez moi, j'aime bien qu'on trouve ce que j'ai au plus profond de moi, quoi. Ce que j'ai dans les tripes.
Non, mais normalement, quand on va dans les restaurants étoilés, le chef a un chef pâtissier, pourquoi pas vous?
Pas forcément, parce que moi j'ai déjà fait une formation de pâtissier, que j'ai une pâtisserie que j'ai laissée dans mon ancienne maison, je pouvais pas la prendre sous le bras, donc. Mais c'est un univers qui me fascine, qui me passionne. Et j'aime autant la pâtisserie que la cuisine. Et puis, j'ai toujours attaché un soin important à la pâtisserie, parce que quand on part du restaurant, c'est le dernier souvenir.
Ah non, Donc, le dernier souvenir, c'est l'addition.
Ah oui. C'est vache.
Tout de suite revenir à des basses considérations.
Vous lancez le sujet, je rebondis.
Non, le dernier souvenir, le dernier beau souvenir.
Ouais, c'est vous avez raison. Et le digestif. Donc, le meilleur pâtissier, les professionnels, la 4e saison démarre ce soir. Elle démarre solennellement. Julia Vignali, vous annoncez le jury devant les candidats. Ils ne savent pas par quelle sauce ils vont être mangés, si j'ose dire. Vous donnez les 3 noms fameux. Et il y a une candidate qui fond en larmes.
Merci de bien vouloir accueillir Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège. Bonjour chef.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Julia.
Bienvenue Jean-François dans la grande famille du meilleur pâtissier.
Merci.
Mais qu'est-ce qui se passe Amandine?
On a perdu Amandine, ça y est.
Qui te met dans cet état?
Les 3.
C'est quand même complètement dingue. Elle est vraiment en larmes.
Mais ça, excusez-moi, mais ça n'est pas la première fois que je vois un candidat du meilleur pâtissier fondre en larmes devant un chef. Parce que c'est. Il faut imaginer, quelle est votre idole, vous, Philippe ?
Le groupe Kraftwerk.
Ben voilà, c'est comme si vous les aviez en face de vous. Peut-être que vous vous mettriez à pleurer.
C'est possible.
Moi, j'adore Bono. Si je vois Bono, je me mets à pleurer. Ben, eux, c'est Jean-François Piège, Cyril Lignac et Pierre Hermé.
Cette année, ce ne sont plus des candidats qui vont candidater, mais des binômes. 7 binômes. Comment les résumer, les 7 binômes, il y a qui ?
Alors, je ne vais pas vous donner les 14 noms, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que moi j'aime chez ces binômes, c'est qu'on peut vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de. Ils nous ressemblent.
Il y a tous les cas de figure.
Ben, c'est dans la vraie vie, pardon.
Exactement.
C'est la vraie vie du monde professionnel.
Exactement.
Ouais, parce qu'ils ont tous des boulangeries et pâtisseries.
Tous.
Alors, il y a les frères, il y a le père et le fils, il y a un couple, il y a les deux copines, il y a le beau gosse et la fille canon qui ne sont même pas en couple. C'est les plus étonnants. On dirait presque des binômes de Pékin Express.
Ah oui ?
Ils sont tous trop beaux, trop bien.
En tout cas, ils sont tous très très sympas et très talentueux.
Et très forts. Ouais. Et on retrouve.
Ils sont tous très
vivre.
Forts, Jean-François Piège.
Oui, parce que le boulanger qui touche à la pâtisserie, à sa vision, et le pâtissier qui est l'ultime dans la pâtisserie un peu boutique, bah, il a une autre vision. Et ouais. C'est ces visions qui s'affrontent avec des amitiés. Des liens familiaux, oui. C'est incroyable, c'est explosif, vous allez vous régaler.
Alors, j'ai vu l'émission, la première épreuve m'a donné les sueurs froides, même si c'est le quotidien de tous les pros, c'est que c'est l'épreuve de la vitrine, donc il faut faire un gâteau, mais il faut en faire 30.
30 ?
30 les mêmes.
Bah oui.
Donc mais... il faut qu'ils se ressemblent.
Mais parce que quand vous rentrez dans une pâtisserie, non, mais dans la vraie vie,
bien sûr.
Et ben, vous ne voyez pas qu'un gâteau.
Oui.
Parce que dans les émissions, souvent, on ne fait qu'un gâteau.
Ouais.
Cette fois, on a décidé de les ramener dans leur vraie vie.
Ouais.
Et la vraie vie, c'est remplir une vitrine quand on a une pâtisserie. Et c'est incroyable.
Mais bien
il
ne
faut
c'est...
pas que le 29e gâteau il soit approximatif. Il faut que tout soit parfait. C'est ça la difficulté.
Quand on a la chance d'arriver à 29, parce qu'il y en a qui sont gourés et qui n'avaient pas assez de matière.
Oh, ça, je ne vais pas spoiler.
Je ne vais pas dire qui. Alors. Ça s'est bien passé le tournage, vous me dites Jean-François Piège qu'ils sont tous très talentueux, je vais y arriver. La première épreuve, il s'agit de revisiter la tarte tatin, mais on l'a dit, en 30 exemplaires. On va entendre deux candidats, c'est Henri et Alexis. Ils sont lancés dans la cuisson des pommes, dans un caramel beurre salé. Je suis technique, mais c'est important. Et là, Jean-François Piège, vous venez goûter et vous décelez un problème.
Il y a quoi là-dedans ? Putain, c'est sucré, hein ? Wow ! C'est quoi là ? Racontez-moi ce que vous avez dedans.
Du sucre, du beurre.
Ouais.
Et ensuite du vinaigre de cidre.
Ah, il y a autre chose.
Non ?
Ah non, il n'y a rien d'autre. Il y a de l'eau, il y a quelque chose.
On met un petit peu d'eau, ouais.
Hey, on m'avait pris pour un lapin de 6 semaines ou quoi ? Oh ? Ça n'a pas de goût ? C'est que du sucre ? La pâtisserie, c'est comme la cuisine. Quand ça a du goût, c'est que c'est concentré.
Ouais.
Là, vous avez tout dilué. Les pommes cuites à l'eau, c'est pas bon.
Alors, il y a un truc que j'ai absolument pas compris. Quand on rajoute de l'eau, ça devient plus sucré.
Bah,
l'intuition dirait l'inverse. On rajoute de l'eau, c'est moins sucré. Expliquez.
Faites une compote à la maison. Rajoutez de l'eau dedans. Vos pommes vont être délavées. Ce qui est à l'intérieur des pommes va aller dans le jus.
Ouais.
Moi, j'ai pas goûté le jus. J'ai goûté la pomme. Et le sucre est rentré dans la pomme. Si vous voulez faire une bonne compote à la maison, vous épluchez les pommes et vous mettez une assiette sur une casserole et vous faites cuire tout doucement. Le sucre contenu à l'intérieur suffit et c'est délicieux. Pour une tarte tatin, c'est pareil. On va pas rajouter de l'eau parce que la pomme, c'est 90%.
J'ai compris, mais j'ai attendu 58 ans pour comprendre, c'est évident.
Et vous allez
merci.
Faire une compote de pommes ce soir.
Exactement, sans sucre. Et alors, j'ai appris aussi un nouveau mot qui est une exigence de cette saison, les desserts désucrés. Quelle différence entre un dessert désucré et une pâtisserie peu sucré, ou c'est pareil ?
C'est la même chose,
d'accord.
Simplement que c'est nous, on est dans la phase de la recette. Donc pour l'expliquer, la recette, il faut la désucrer,
ouais.
Qui va donner un dessert peu sucré.
Voilà, d'où l'expression dessalé. Vous restez avec nous, Jean-François Piège, Julia Vignali, on a encore plein de questions. Et Julia Vignali m'a dit, attention, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Justement, je les ai là, à tout de suite.
Ah, génial !
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le meilleur pâtissier, version les professionnels, c'est la 4e saison qui démarre ce soir sur M6 à 21h. C'est présenté par Julia Vignali. Profitez-en, c'est la dernière saison. Jean-François Piège
la
fait
dernière
partie.
Saison de Julia. Ah,
oui,
bah
évidemment.
C'est ça,
pas de
c'est
l'émission.
Ça qu'on va regretter, oui.
Bah oui,
évidemment.
Pas de l'émission.
Bah non,
évidemment.
Jean-François Piège, puisque vous parlez, je vais le dire quand même parfois, vous êtes un peu. Vous allez dire si vous êtes sévère ou pas. Vous êtes dur parfois au moment du verdict. Notamment quand vous goûtez la plus belle réalisation, au passage hyper impressionnante, on en dira un mot ensuite. Mais tout d'abord, on va écouter votre verdict sur une tarte tatin revisitée.
Moi, j'aime pas. Pardon. Mais j'aime pas en aimant le travail que vous avez fait. Je m'explique. On peut vous féliciter parce que, en termes d'exécution, c'est parfait. Mais quand je vois une tarte tatin, j'ai envie de voir des pommes ou le fruit qui va la composer. Et là, je le vois pas. Pour moi, ça, c'est rédhibitoire. Moi, j'aime pas. Mais Vous savez pourquoi j'aime pas? Parce que c'est une tarte tatin. Vous nous avez promis de la revisiter. Visuellement, c'est probablement celle qui va ressembler le moins à une tarte tatin. Et quand on la goûte, c'est celle qui ressemble le plus à une tarte tatin. C'est dur de vous dire ça, parce que on sent que tout est parfaitement exécuté.
Mais est-ce que tu la manges en entier?
Mais oui, je la mange en entier.
Eh ben alors voilà!
Mais ça suffit pas! J'ai envie de plus!
Vous êtes dur quand même, vous la mangez en entier, mais ça vous plaît pas.
Ben oui, mais on leur a demandé de faire une tarte tatin et j'ai pas une tarte tatin à la fin. Ouais. Quand vous rentrez dans un magasin et que vous demandez quelque chose, vous avez envie de l'avoir.
Ah, c'est sûr.
Ben moi, c'est pareil. Après, j'essaye de leur expliquer pourquoi comme j'ai senti chez ces gens qui avaient du potentiel, j'allais pas me satisfaire de leur dire que tout va bien à la première émission. Il fallait les pousser à aller plus loin pour qu'ils se surpassent. Et c'est une façon d'exprimer l'amour que j'ai pour eux en leur disant, vous êtes au top dans l'exécution. Vous avez fait un goût qui est parfait, mais allez-y, donnez-moi plus, parce que vous êtes capable de plus.
La question qu'on demande toujours aux gens qui sont jurés dans ces émissions, la prod vous donne des consignes d'être plus gentil, plus méchant, on se répartit les rôles ou pas du tout?
Non, j'ai fait parce que je le sentais comme ça, parce que c'est la relation avec les candidats qui m'a imposé d'avoir cette honnêteté avec eux.
Amandine, elle a dit « Oh là là, il est dur Jean-François Piège !»
Mais ils vont garder quoi par la suite? Ils vont garder le fait que je leur ai dit que c'était la meilleure et qu'ils vont essayer d'aller chercher le reste. Moi, j'ai appris mon métier en non pas le réussissant, mais en le ratant. Mmh. Et en me regardant, en réfléchissant, en faisant mon introspection, ça m'a permis de me dépasser. Et c'est dans la bienveillance, en fait.
Vous avez 51 ans, je ne trahis pas un secret.
50.
50, ouais, je me suis trompé à 6 mois près. Il y a beaucoup d'épreuves dans cette émission où il faut revisiter telle ou telle recette. Et vous dites appartenir à la première génération, je vous cite, de cuisiniers qui a connu les carambars et les fraises tagada. Ouais. Ça change quelque chose?
Oui, ça change quelque chose parce que ça m'ouvre sur un autre monde. Ouais. Je ne vais pas rester sur les recettes du passé. Je vais me servir du passé, mais aussi le faire venir dans cette époque-là. Et puis ce qui était intéressant de mon arrivée dans ce jury, c'est que la tarte tatin, ce n'est pas un dessert de pâtisserie, c'est un dessert de cuisinier qu'on a fait rentrer dans la pâtisserie. Parce que le dessert de cuisinier, c'est l'instantanéité, c'est l'équilibre. Un dessert de pâtissier, il faut le conserver, il faut le vendre. Nous, on pense punch, on pense goût. C'est pour ça que moi, je suis celui qui va défendre ces valeurs-là.
Attention, je vais faire l'enchaînement le plus pourri de l'histoire de la radio. Julia Vignali, tagada, tagada, votre carrière va prendre un nouveau départ, puisque vous serez sur France 2 à la rentrée pour co-présenter Télématin avec Thomas Soto. Vous aviez annoncé il y a quelque temps votre départ d'M6, même ici à ce micro. Vous deviez vous consacrer à des projets dans le cinéma, l'écriture d'un film, réalisé, incarné par votre compagnon Kad Merad, également une série. Mais du coup, on a appris samedi que vous alliez rejoindre France 2 à la rentrée. Vous aviez prévenu M6?
Alors, je ne fais pas du tout de commentaires sur ça, parce que je vais vraiment me consacrer à ma dernière apparition. Mais ma dernière apparition,
mais
c'est ça le sujet.
Mais oui.
Plus personne ne pourra me voir au milieu des gâteaux. Plus personne pourra me dire « elle est encore enceinte ». Huit fois, on a annoncé ma grossesse en 4 ans.
Pourquoi?
Mais parce que je les mange, les gâteaux. C'est fini, tout ça. C'est fini. Donc, profitez de ma dernière apparition sur M6.
Une info, c'est le vrai jury, c'est Julia.
C'est vrai. Bien sûr. Mais ils étaient
c'est elle qui décide tout.
Mais oui, voilà. Moi, en fait, je suis là. Téléspectatrice. Donc à partir du moment où le gâteau est fini, par moi, ça veut dire qu'il est bon.
Quelle part vous prenez dans l'émission? Vous êtes la présentatrice, vous goûtez, vous donnez votre avis. Est-ce que vous êtes là à la création des épreuves? Et après, je poserai la même question à Jean-François
Piège. Je suis la seule qui n'est pas experte, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que M6 est venu me chercher il y a 4 ans. Ouais. Je me souviens à l'époque, j'ai dit à Thomas Valentin, mais pourquoi moi? Pourquoi les gâteaux? Je ne sais pas les faire et j'évite d'en manger parce que j'ai des problèmes de poids. Mmh. Et il me dit, mais c'est pas grave, tu seras la seule justement qui n'y connaîtra rien. Ouais. Et là, au bout de 4 ans, je pense que je commence vraiment trop à m'y connaître. Il fallait arrêter.
Quelques temps, ici sur Europe 1, il y a 4 ans, dans Village Média, je présentais une émission qui s'appelait Village Média. Vous vous souvenez du son qu'on avait passé?
C'était fantastique.
On avait passé une archive dans laquelle Julia Vignali disait, je vous laisse le dire.
À l'époque des maternelles, j'avais été interviewée et on m'avait dit « Est-ce que vous pensez que pour présenter les maternelles, il faut avoir un enfant ?» Et j'avais dit « Bah oui, évidemment, quand même, il faut savoir de quoi on parle quand on présente une émission, par exemple. » Et personne ne m'avait demandé de dire ça, j'avais enchaîné en disant « Par exemple, un jour, si on me proposait de présenter une émission de pâtisserie, je serais bien embêtée parce que, en fait, ça m'intéresse pas, je mange pas de gâteau. » Et voilà, il m'a repassé ce son.
Toujours se méfier.
Il faut se méfier de ce qu'on dit. Et j'ai adoré présenter cette émission pendant 4 ans, je le précise.
Voilà, ça va jusqu'à quand? Il y a combien de numéros?
Il y a 5 numéros, donc je pense que ça nous amène à la mi-juin quasiment.
Exactement. Jean-François Piège, dans 2 semaines, ça nous amène à la réouverture des terrasses. Puis dans 1 mois, dans les salles de resto. Ça vous fait sourire là aussi?
Merci, j'ai pas de terrasse. Vous êtes gentil, merci. J'en ai une micro. Trop à l'épidore, mais sur les quatre autres, j'ai pas de terrasse.
Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous voyez cette réouverture?
Ben, on va faire ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on va attendre patiemment. Et je peux vous dire qu'on est déjà à fond sur la réouverture.
Voilà. Dans le JDD, vous dites que vous allez changer des choses au grand restaurant. Qu'est-ce que vous allez faire?
Oui, parce que
c'est votre restaurant doublement étoilé.
Voilà,
le grand
restaurant gastronomique. J'avais des envies qui étaient au plus profond de moi. Comme le restaurant fonctionnait bien, j'avais pas forcément le courage de les faire. Cette crise ou cette parenthèse, on va dire cette parenthèse parce qu'on va appeler ça parenthèse, m'a permis d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le grand restaurant, il sera tout petit, il n'aura que 15 couverts. Et je me suis toujours...
Pardonnez-moi, il en avait combien précédemment?
25. Donc 15, c'est pas beaucoup.
Dans quel but réduire?
Réduire et surtout s'appuyer sur notre identité française. Je n'avais pas forcément envie de le marteler tout le temps. La ligne de conduite, c'est les territoires de France. Parce que les territoires, c'est mieux que le terroir. Le terroir, c'est l'endroit où l'on est. Le territoire, c'est la conjonction de la culture au sens propre comme au sens figuré, de l'endroit où l'on est et de l'époque dans laquelle on vit. Et je pense que ces quatre éléments vont construire ce que sera ma ligne de conduite au grand restaurant.
Donc il n'y aura plus que des produits qu'on peut trouver en France ?
Totalement. Mais déjà avant, ouais. Mais je le martelais pas. C'était sur les mijotés modernes, ma ligne de conduite, mais ça va être les mijotés modernes dans les territoires de France, c'est-à-dire cuire la France, cuisiner la France.
Et puis aussi, vous allez proposer, si je suis bien informé, quelque chose dont vous n'étiez absolument pas fan, c'est un menu unique.
Oui.
Ouais. Pour quelle raison?
Parce qu'en fait, le menu unique, c'est une façon de construire la cuisine. Comme là, j'ai une ligne de conduite les territoires de France, je me dis que les gens qui voyagent, ils ont envie de découvrir la France, que ceux qui ne peuvent pas voyager, ils ont aussi envie de découvrir la France. Donc, ne pas leur laisser le choix pour les faire voyager, ça va être ma ligne de conduite et leur faire plaisir, évidemment.
Et 15 couverts, comment vous allez vous en sortir?
Ben, on va faire du mieux qu'on peut, on va voir. Vous savez, cette question, ça fait 18 mois qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de compliqué.
Merci beaucoup. Menu unique, Julia et moi, ça nous rappelle la Macédoine, les coquillettes et la compote.
Ah oui, compote ce soir.
Compote ce soir, mais pas trop sucré, désucré. Merci beaucoup, Julia Vignali, qui n'a pas répondu à la question à laquelle elle ne voulait pas répondre, et on la reconnaît bien là. Merci beaucoup, Jean-François Piège.
Merci,
on vous retrouve tous les deux. Le meilleur pâtissier, les professionnels, c'est la 4e saison qui démarre ce soir sur M6 à 21h. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une nouvelle série américaine produite par le rappeur 50 Cent et Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Là aussi, c'est des chiffres et des lettres pour Bertrand Chamerois. Notre invité, c'est Nicolas Pagnol. C'est le petit-fils de l'écrivain Marcel Pagnol qui a trouvé un procédé absolument formidable pour faire connaître l'œuvre de son grand-père à la nouvelle génération. Et puis dans Les Indispensables, un film d'animation Netflix et un album plein d'espoir. Voilà, je l'ai dit, Culture Média continue. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.